Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
La vie des chrétiens doit être vraiment le signe de l'amour de Dieu qui appelle chacun à l'amitié avec lui. Le pape François a une nouvelle fois exhorté des milliers de fidèles, place Saint-Pierre. Le pape qui a aussi dénoncé le travail domestique des enfants, particulièrement des filles. Compte rendu et éclairage dès le début de ce magazine. Le cardinal Jean-Louis Torrent, messager de paix interreligieuse au Royaume-Uni, le prélat français haut responsable de la curie romaine, visitera notamment un temple hindou dans la périphérie de Londres. C'est l'un des temps forts de l'année de la foi. Des milliers de personnes sont attendues à Rome pour les journées de l'Evangelium Vitae. L'Église veut encourager l'engagement des catholiques en faveur de la vie et exprimer sa solidarité avec ceux qui souffrent. Une fois encore, c'est une foule énorme et enthousiaste qui a convergé ce mercredi matin vers la place Saint-Pierre pour assister à l'audience générale du pape François, un pape dont le style et la franchise continuent d'exercer une réelle fascination, y compris parmi les non-croyants, alors que ce même style et cette même liberté de parole bousculent et parfois déstabilisent ses collaborateurs, tout comme les observateurs, à commencer par les journalistes, qui semblent parfois avoir du mal à faire la part des choses. Dans sa catéchèse hebdomadaire, le Saint-Père affirmait que l'Église n'était pas une élite, que Dieu n'appartient pas à un peuple, c'est lui qui appelle tous les hommes sans distinction, même celui qui se sent loin, craintif ou indifférent. Le compte-rendu de Thomas Chabol.
Vorrei dire a voce alta. Dieu
est le plus fort. Le pape François l'a affirmé avec force en exhortant les quelques 60 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre à le crier tous en chœur. La présence du mal existe, le diable est à l'œuvre. Il suffit d'ouvrir un journal pour s'en rendre compte. Mais Dieu est le plus fort parce qu'il est l'unique Seigneur. S'il vous plaît, dites-le à voix haute avec moi, a-t-il lancé à la foule.
Lo diciamo insieme tutti. Dio è più forte tutti.
Dans sa catéchèse consacrée à l'Église, peuple de Dieu, le souverain pontife a relevé que la réalité est parfois sombre et marquée par le mal, mais les choses peuvent changer si nous apportons par notre vie la lumière de l'Évangile. Lui-même fan de foot, il a choisi de recourir à la métaphore du stade pour appuyer son exhortation. Si dans un stade comme l'Olimpico de Rome ou le San Lorenzo de Buenos Aires, quelqu'un allume une lumière, on la voit à peine, mais si les 70 000 spectateurs allument chacun leur lumière, le stade s'illumine. A-t-il lancé sous les ovations. Le pape François a rappelé que le peuple de Dieu est régi par la loi de l'amour. Il a reçu pour mission de porter l'espérance et le salut de Dieu au monde entier, de surmonter les divisions, les rivalités, les incompréhensions et les égoïsmes. L'Église n'est pas une élite, a-t-il insisté. Elle doit être ouverte pour que tous puissent y venir. Il faut ouvrir les portes pour annoncer l'Évangile.
Et dans son dernier tweet publié sur son compte @pontifex, le pape François déplore les nombreuses pauvretés morales et matérielles qui viennent aujourd'hui du refus de Dieu et du fait de mettre à sa place tant d'idoles. Et je vous le disais en titre, le Saint-Père a profité de l'audience générale pour dénoncer le travail des mineurs, une plaie authentique, a-t-il dit, à l'occasion de la célébration ce 12 juin de la journée annuelle de sensibilisation à cette problématique. Le pape François a demandé à la communauté internationale de prendre des mesures encore plus efficaces. Les enfants, a-t-il insisté, doivent pouvoir jouer, étudier, prier et grandir dans leur propre famille, dans un contexte harmonieux d'amour et de sérénité. C'est leur droit. Et c'est notre devoir. Malheur à ceux qui étouffent en eux l'élan joyeux de l'espérance, a-t-il lancé avec force. Le pontife s'est notamment attardé sur l'accent mis cette année sur le travail domestique, un phénomène déplorable qui ne cesse d'augmenter, surtout dans les pays pauvres. Des millions de mineurs, surtout des petites filles, sont victimes de cette forme cachée d'exploitation qui s'accompagne souvent d'abus, de mauvais traitements et de discrimination. C'est un véritable esclavage. 15,5 millions d'enfants dans le monde seraient impliqués dans le travail domestique, selon le rapport publié par l'OIT, Organisation internationale du travail. Au sein de l'OIT, l'IPEC est un programme international pour l'abolition du travail des enfants qui expire dans 3 ans. Laurence Dubois est chargée de programme au sein de ce groupe. On l'écoute.
On estime à 15,5 millions le nombre d'enfants qui sont impliqués dans le travail domestique. Parmi ces 15,5 millions, il y en a 10,5 millions qui sont dans ce qu'on appelle le travail des enfants, c'est-à-dire dans une situation qui est inacceptable. 72% sont des petites filles qui s'occupent de la maison, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des personnes âgées. Personne ne s'occupe d'elles, elles sont bien souvent traitées comme des esclaves et sont sujettes à toutes les violences possibles. C'est vraiment un domaine qui touche tous les pays, toutes les régions du monde, quelle que soit la situation de pauvreté du pays. C'est une réalité d'autant plus difficile à aborder qu'elle est cachée par les portes fermées des maisons.
Quelle réponse votre programme pour l'abolition du travail des enfants peut-il apporter à ce problème du travail domestique ?
La première recommandation est celle de demander aux pays qui ratifient notre convention 189 qui a été adoptée l'année dernière, d'appliquer cette convention au niveau national. L'autre demande, c'est bien sûr de veiller à ce que ces enfants soient protégés et également à renforcer tout ce qui est sensibilisation et mobilisation nationale pour que le phénomène et les lois nationales soient connues.
En 2010, déjà, vous aviez adopté un plan d'action mondial contre le travail des enfants. Quel bilan peut-on en faire 3 ans après ?
Alors le premier bilan, on peut dire positif, c'est que la plupart des pays recherchent à mettre en place des plans d'action nationale de lutte contre le travail des enfants en réponse à ce plan d'action mondial. Ces plans d'action nationale permettent de coordonner les activités et les efforts au niveau national pour faire changer les choses de façon durable. Il est évident que nous, en tant qu'organisation internationale, en tant que projet, on ne peut pas changer les choses si le pays ne prend pas lui-même les mesures pour les changer.
La crise qui se prolonge est-elle un obstacle, selon vous, pour la lutte contre le travail des enfants ?
La crise économique, mais aussi parfois les crises alimentaires dont on ne se rend pas trop compte, ont des conséquences graves sur la question du travail des enfants. Plus les parents sont pauvres, plus la question du travail des enfants apparaît et que les problèmes de crise économique, de crise alimentaire, malheureusement, ça appauvrit les familles et le travail des enfants a tendance à augmenter.
En 2016, votre programme prend fin. Les objectifs fixés peuvent-ils être atteints ?
L'objectif, c'était l'élimination des pires formes de travail des enfants d'ici 2015. Il y a tous les enfants qui travaillent en deçà de l'âge légal d'accès à l'emploi. Et puis ensuite, les enfants qui sont utilisés dans les conflits armés, les enfants qu'on utilise pour la prostitution, les enfants qui vont être utilisés également pour tous les trafics d'armes ou les trafics de drogue. Malheureusement, la question du travail des enfants reste bien d'actualité. Les pires formes du travail des enfants ne seront pas toutes éliminées d'ici 2016. On essaie de faire au mieux, on essaie de mobiliser aussi bien les gouvernements que les partenaires sociaux pour arriver à se rapprocher le plus possible de l'objectif. Et un bilan sera dressé pour voir aussi quelles sont les mesures à prendre en compte et à mettre en place pour que la lutte contre le travail des enfants continue au-delà de 2016.
Des propos recueillis par Jeanne Varaldi. Rome se prépare à accueillir des milliers de personnes en fin de semaine à l'occasion des journées de l'Evangelium Vitae, l'Évangile de la vie, l'un des grands événements de l'année de la foi, organisé sous les auspices du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Les 15 et 16 juin, des fidèles de plusieurs pays vont se retrouver autour du pape François pour témoigner ensemble de la valeur sacrée de la vie, celle des personnes âgées, des malades, des mourants, des enfants à naître et de tous ceux qui vivent dans la souffrance. L'objectif est aussi de célébrer et d'encourager ceux qui s'efforcent de soulager les besoins physiques, psychologiques et spirituels des souffrants. Samedi, un pèlerinage sera organisé du château Saint-Ange jusqu'à la place Saint-Pierre où le credo sera récité en plusieurs langues. Dimanche matin, la messe sera célébrée par le Saint-Père à partir de 10h30 sur la place Saint-Pierre. Plusieurs autres initiatives sont prévues pour les groupes linguistiques tels que des catéchèses, des pèlerinages sur le tombeau de l'apôtre Pierre, l'adoration eucharistique et le sacrement de pénitence dans les églises situées dans les environs de Saint-Pierre, une procession au flambeau et une veillée marquée par des témoignages sur la valeur absolue de la vie. Parmi les personnes attendues, des familles regroupées par diocèse et paroisse, des groupes de religieux et des organisations comme l'Ordre de Malte, l'Unitalsi qui s'occupe de l'accompagnement des malades à Lourdes et la Croix-Rouge, ainsi que des mouvements pro-life engagés dans la défense de la vie. Le cardinal Jean-Louis Torrent a entamé une visite de 5 jours en Grande-Bretagne. Le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux entend renforcer les relations interreligieuses dans le pays et dire que l'amitié entre les religions est déjà le fondement de la paix. Le cardinal Torrent visitera notamment la communauté sikh de Birmingham et le temple hindou de Londres. Le 13 juin, dans la cathédrale de Westminster, il participera à une rencontre interreligieuse intitulée « Ensemble en prière pour la paix ». Sa visite intervient dans un contexte tendu après le récent meurtre à l'arme blanche d'un militaire à Londres, un geste qui a exacerbé la haine intercommunautaire. D'où l'importance d'une telle initiative dont se félicite l'évêque chargé du dialogue interreligieux au sein de la Conférence épiscopale d'Angleterre et du Pays de Galles, Jean-Baptiste Cocagne.
La visite du cardinal Torrent en Grande-Bretagne intervient dans un contexte bien particulier. 3 semaines après la tragédie de Woolwich, où un homme récemment converti à l'islam avait tué un soldat en pleine rue, réveillant ainsi des tensions intercommunautaires et interreligieuses dans le pays. En favorisant le dialogue, la venue du cardinal Torrent peut devenir un facteur d'apaisement. C'est ce que pense l'archevêque Kevin MacDonald, responsable du dialogue interreligieux dans la conférence épiscopale anglo-galloise. Il est interrogé par Philippe Aitchen du service anglophone de Radio Vatican.
Quand vous avez un événement comme celui-là, des gens réalisent alors le besoin d'être ensemble. Je pense que la difficulté arrive au moment où la mémoire de l'événement s'efface. Les gens retournent alors à leur propre façon de penser. Ce que j'espère avec la visite du cardinal Torrent, c'est qu'elle nous donne de nouveaux repères communs. On a besoin de saisir cette opportunité d'aller plus loin.
La visite du cardinal Torrent s'adresse aux religions hindoues, jaines et sikhs. En apparence éloignées de la tradition chrétienne, ces 3 religions ont pourtant des points communs avec la chrétienté, l'archevêque Kevin MacDonald.
On a ici un terrain commun par rapport à la non-violence, la compassion, le service rendu à l'humanité. Nous devons essayer de trouver des moyens de parler de tout cela ensemble.
La visite du cardinal Torrent fait écho au discours à la curie de Benoît XVI à Noël dernier. Le dialogue entre les religions est une condition nécessaire pour la paix dans le monde et c'est donc un devoir pour les chrétiens et pour les autres communautés religieuses. Fin de citation. Le dialogue interreligieux aide ainsi l'Église à comprendre sa propre identité.
Les membres de la présidence de la CLAR font part de leur tristesse après la publication d'un compte-rendu de leur échange avec le pape François le 6 juin dernier dans le cadre d'un entretien privé. La hiérarchie de la Confédération des religieux et religieuses d'Amérique latine et des Caraïbes explique que cette conversation s'est développée à partir des questions que les participants ont posées au Saint-Père. L'entretien n'a pas été enregistré, mais une synthèse interne a été élaborée de mémoire par les participants. Cette synthèse, qui ne contient pas les questions posées au pape François, était destinée aux archives personnelles des participants et en aucune manière à être publiée. Aucune demande d'autorisation n'avait d'ailleurs été présentée pour une éventuelle publication. Il est clair que sur de telles bases, ces propos ne peuvent pas être attribués avec certitude au souverain pontife. Les membres de la présidence de la CLAR regrettent profondément ce qui s'est produit et la confusion que cela a pu provoquer. Je vous rappelle que la nouvelle a fait grand bruit. Un site catholique a affirmé qu'au cours de cet échange, le pape François aurait reconnu la difficulté de la réforme de la curie romaine en parlant d'un courant de corruption et de l'existence d'un lobby gay. Interrogé par les journalistes, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a refusé de commenter une rencontre à caractère privé dont la teneur n'est donc pas publique. Ce mercredi matin, le site chilien explique avoir reçu il y a quelques jours une synthèse de la réunion du pape François avec la CLAR. Il nous a semblé, affirment les responsables du site, que ce texte concordait avec ce que publient chaque jour les grands médias sur ce que dit et écrit le pape François. Pour cette raison, nous avons publié ce texte comme une information pertinente, sans commentaire, avec simplement une brève présentation. Depuis le début du pontificat du pape François, de nombreux écrits aux conversations privées ont filtré dans la presse. Enfin, France, le diocèse de Chartres célèbre du 14 au 16 juin le 50e anniversaire du transfert de la sépulture de Franz Stock en l'église Saint-Jean-Baptiste de Rechèvre. L'abbé Franz Stock, ce n'est pas un nom, c'est un programme. Monseigneur Roncalli, nonce apostolique en France et futur pape Jean XXIII, avait employé ces mots le 28 février 1948 lors de la bénédiction de sa dépouille mortelle. Arrivé en 1940 à la mission catholique allemande de Paris, l'abbé Franz Stock commence en 1941 sa mission d'aumônier des prisons parisiennes. Il est chargé de prendre soin des détenus dans les prisons et de préparer et d'accompagner les condamnés à mort jusqu'au lieu de leur supplice. On l'appellera dès lors l'aumônier de l'enfer et l'archange en enfer. En 1944, Franz Stock est lui-même fait prisonnier de guerre. Quelque temps après, il prend la tête du séminaire des Barbelés qui rassemble des étudiants en théologie allemands en captivité en France. Monseigneur Michel Pansard, évêque de Chartres, évoque cette figure toujours d'actualité et ce modèle de réconciliation pour l'Europe.
Pour moi, c'est un artisan de paix. C'est quelqu'un qui a entendu la béatitude des artisans de paix. Et adolescent, il avait repéré cet appel de Benoît XV, hein, demandant qu'il y ait des artisans de paix au sortir de la Première Guerre mondiale. Sa vie, pour moi, est un écho et une réponse à cet appel qu'il avait perçu. Et donc, artisan de paix, et belle figure aussi de réconciliation franco-allemande.
Pourquoi le diocèse de Chartres l'honore-t-il ?
Eh bien parce que le diocèse de Chartres est marqué par cette figure. D'abord parce que après la guerre, Franz Stock, se retrouvant prisonnier, s'est retrouvé dans un camp de prisonniers à côté de Chartres où on a rassemblé tous les séminaristes allemands qui étaient prisonniers. Et il est devenu supérieur d'un séminaire dans le cadre de ce camp, puisque près de 900 séminaristes allemands sont passés dans ce séminaire et 600 ont été ordonnés prêtres. Et puis sa tombe, puisqu'il est mort en 1948, est enterré d'abord au cimetière de Thiers. Et au moment où sa tombe risquait de passer dans une fosse commune, les amis de Franz Stock se sont mobilisés pour qu'il soit enterré à Chartres dans une église qui venait d'être construite, l'église Saint-Jean-Baptiste de Rechèvre.
C'est une figure encore vivante, celle de l'abbé Stock ?
Oui, d'abord je trouve que c'est une figure qui reste très actuelle, hein, y compris dans un monde de tension, dans un monde où nous fêtons le 50e anniversaire de la réconciliation franco-allemande, eh bien, elle est tout à fait d'actualité dans ce cadre-là. Et je porte, moi, le souci aussi de faire découvrir cette belle figure à la fois d'homme, de chrétien et de prêtre aux jeunes générations. En particulier, son discours d'adieu du séminaire des Barbelés en 1947 est un discours plein d'actualité. Notre monde a besoin de saints qui soient trempés, hein, de saints dont l'attachement à leur patrie, hein, ne soit pas limité, hein, y compris qu'ils soient en même temps des frères, y compris d'une humanité plus large.
C'est un modèle valable, valide à proposer pour la construction européenne ?
Ah, je pense que c'est une belle figure, y compris pour la construction européenne. En tous les cas, moi je suis frappé de voir régulièrement des groupes d'Allemands venir à Chartres et aller soit à la tombe, soit au séminaire des Barbelés, hein, ou qui est au Poudray, et les entendre dire « Ah, voilà, on évoque la dernière guerre mondiale, et ici, on a une évocation positive pour des Allemands, grâce à cette figure d'un homme qui plongeait dans le drame, y compris dans des situations qui ressemblait à un enfer. Il a accompagné plusieurs centaines de personnes au peloton d'exécution du Mont Valérien. Il a visité nombre de prisonniers de résistants quand il était aumônier des prisons du Cherche Midi et de la Santé. Et puis, quand il s'est retrouvé lui-même prisonnier, il a été auprès de ses compagnons séminaristes allemands. Voilà, un artisan de paix et de réconciliation. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'il a su gagner la confiance de ceux que la vie lui donnait de rencontrer, et il n'a jamais trahi cette confiance. Et il a su être présent là où bien d'autres auraient pu chercher à fuir ces situations qui ressemblaient. Hein. Un de mes prédécesseurs a écrit un livre sur Franz Stock, l'aumônier de l'enfer.
L'évêque de Chartres, interrogé par Olivier Tosserie. C'est ce jeudi que seront célébrées en la cathédrale de Lille les funérailles de Pierre Mauroy, l'ancien Premier ministre socialiste français, mort vendredi dernier d'un cancer du poumon à l'âge de 84 ans. Un hommage national lui a été rendu mardi matin dans la cour des Invalides à Paris. L'archevêque de Lille, ville dont il fut le maire, s'est fait l'écho de l'estime et de la reconnaissance de toute une région. Monseigneur Laurent Ulrich, qui est également vice-président de la Conférence des évêques de France, a évoqué les belles qualités de ce responsable. responsable politique. Pierre Mauroy a eu un destin national et international, écrit-il. Il s'est attaché à imaginer l'avenir tout en étant attentif aux personnes qu'il a rencontrées. Sur Radio Notre-Dame, le journaliste catholique Gérard Leclerc a tenu pour sa part à rappeler que Pierre Mauroy était étranger à tout anticléricalisme et ce qui pouvait s'exprimer en fait d'intolérance à l'égard de la religion l'exaspérait. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver à tout moment sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français, ainsi que sur Twitter et sur nos applications. Merci de nous avoir suivis.